Je suis maître de conférence, alors ça tombe bien, justement dans l'exposé d'aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ce que c'est le maître de conférence, à l'université Blaise Pascal, donc à Clermont-Ferrand. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est la recherche scientifique, et notamment, on va commencer par qui l'a fait, cette recherche, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire aussi comme étude, ça c'est parce que ça vous concerne un peu directement, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir chercheur, combien il y en a à peu près. Qu'est-ce que c'est que le système de publication? Ça, c'est pour vous aider à comprendre notamment des choses dont on entend parler dans l'actualité. Qu'est-ce que c'est que le GIEC, le groupement d'études internationales d'études du climat, d'un point de vue finalement scientifique, qu'est-ce qu'il représente? Je vais vous parler de l'explosion de la recherche, pas au sens où on fait exploser les labos, même si ça arrive des fois, plutôt au sens où finalement, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, la recherche est devenue quelque chose de vraiment très important pour nos sociétés. Et si aujourd'hui vous avez, je sais pas, des iPhones, des trucs comme ça, c'est aussi parce que, enfin, beaucoup parce qu'il y a eu des chercheurs et qu'on s'est aperçu aussi que c'était tellement enrichissant, intéressant pour toute la société de faire de la recherche que maintenant il y a vraiment beaucoup de chercheurs et que ça avance très très vite dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de disciplines. C'est le côté un peu sympathique de la recherche. Et on verra aussi ce que c'est que la recherche aujourd'hui. Je vous parlerai des lois de Clark, qui est un auteur de science-fiction. Mais ça permet de comprendre pas mal, en fait, comment la recherche peut paraître au grand public. Et je terminerai par un peu ce qu'on appelle la big science. Donc la big science, c'est ce qu'on appelle la grande science, la grosse science. C'est la science avec des moyens très très lourds, des expériences qui demandent le travail de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de chercheurs. Et vous verrez un peu ce qu'on fait aujourd'hui en la matière. Alors, qui sont les chercheurs? Bon, déjà, quelle discipline va recouvrir l'exposé que je donne? Moi, je vais tout de suite me situer. Je suis physicien, donc je suis dans la deuxième discipline. Je les ai mis dans un ordre qui n'est pas complètement aléatoire, mais ce n'est pas un ordre de valeur hein, des disciplines, loin de là. C'est pas indicatif non plus de la vitesse à laquelle elle bouge. Par exemple, la biologie et la médecine sont des disciplines extrêmement actives. Voilà, mais donc, ce que je vais dire sur la façon dont la recherche est organisée, ça va beaucoup recouvrir tout ce qui concerne les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, beaucoup aussi la médecine, et un tout petit peu moins les sciences humaines, qui ont souvent des façons de faire un petit peu différentes, mais qui... Alors, en fait, pour avoir le droit d'être chercheur, il y a une sorte de sésame, il y a un diplôme qu'on appelle la thèse. La thèse ou le doctorat. Donc vous savez sans doute maintenant que les universités, et puis ça a tendance à être le cas au niveau à peu près mondial, au niveau européen c'est le cas, ça marche aussi comme ça à peu près aux États-Unis, un peu, et en tout cas au niveau mondial c'est le cas. En fait le doctorat c'est à peu près le seul diplôme mondial, d'accord? Il est reconnu dans absolument tous les pays du monde savent ce qu'est un doctorat. Alors ils ne donnent pas tous exactement le même nom, nous on appelle ça aussi une thèse. Aux États-Unis, notamment dans les philosophes anglo-saxons, ils disent qu'ils sont docteurs en philosophie, mais au sens de philosophie, pas celle de Rémy, celle de l'amour des sciences, enfin de la connaissance, en fait, c'est ça, et de la sagesse, normalement c'est l'amour de la sagesse, c'est l'amour de la connaissance, en fait. Et ils appellent ça le PhD, voilà, c'est un terme qu'on entend énormément internationalement. Donc le doctorat, en fait, il s'agit en France d'un bac plus 8, donc c'est ce qui se déroule entre bac plus 5 et bac plus 8. Il faut d'abord avoir fait ce qu'on appelle la licence, bac plus 3. C'est des connaissances de base. Souvent, ça se limite un petit peu à ce qu'on faisait pas au 19e siècle, mais début 20e. Il y a le master qui permet de commencer à se former à la recherche. Et donc, licence et master sont des diplômes standards. C'est-à-dire qu'on vous donne des cours, vous êtes censé les comprendre et les restituer, savoir faire des exercices, des examens. Le doctorat, c'est complètement différent. En réalité, c'est un travail de recherche qui s'étend sur 3 ans, et en plus vous êtes payé. Donc en réalité, les études, ouais, on est payé. Quand même un peu plus que le SMIC, ça va. Donc c'est un vrai travail. En réalité, hein, le doctorat, c'est un travail. Et d'ailleurs, les docteurs, ou les thésards plus exactement, puisqu'ils ne sont pas encore docteurs, font une grosse, grosse partie du travail de recherche dans tous les pays du monde. Voilà. Donc c'est apprendre à chercher. C'est ça le sésame. Donc vous savez ce qui vous attend si vous décidez de faire la recherche. Alors en fait, pour arriver au doctorat, je vous ai parlé de licence et de master. Ça, c'est la voie, on va dire, standard. C'est celle des universités qui sont un peu faites pour ça. Elles sont faites pour vous préparer, notamment à la recherche. Il y a aussi une voie possible qui est spécifique à la France, qui est absolument inconnu ou à peu près dans le reste du monde, c'est la voie des classes préparatoires et des grandes écoles. Et plus précisément, il y a un certain nombre de grandes écoles qui préparent explicitement à faire de la recherche. Il s'agit notamment donc des écoles normales supérieures, il y en a trois. La plus connue, c'est celle qu'on appelle la rue d'Ulm, l'école normale supérieure de Paris. J'en ai peut-être pas trop entendu parler, c'est pas extrêmement connu, mais la grande majorité de nos prix Nobel de physique et de chimie sortent de cette école-là. C'est une sorte de détecteur de talent, ou à peu près, c'est très très sélectif. Et puis, ils sortent aussi pour partie de Polytechnique, vous avez peut-être entendu parler de cette école-là, un peu. Et d'une autre école, qui est l'école, le SPCI, en fait, qui est l'école dans laquelle ont officié notamment Marie Curie, Pierre et Marie Curie, et qui a eu aussi une très forte tradition de recherche, puisqu'elle a été dirigée jusqu'à il n'y a pas très longtemps par Pierre-Gilles de Gennes, qui nous a quittés, mais qui était prix Nobel, quand même. Voilà. Et puis, en fait, il faut quand même le dire, toutes les écoles d'ingénieurs, comme elles vous donnent un diplôme qui est équivalent au master, en gros, elles vous permettent de faire un doctorat. Donc, c'est les deux grandes voies d'accès au doctorat en France. Il y a aussi la question du public et du privé. Il n'y a pas très longtemps en France que le nombre de chercheurs dans le privé a dépassé le nombre de chercheurs dans le public, en équivalent d'emploi à temps plein. Évidemment, ils ne font pas tout à fait la même chose. Les chercheurs du public font plutôt ce qu'on appelle la science, enfin plutôt, ils ne font pas que ça, mais ils font de la science un peu plus fondamentale, c'est-à-dire avec moins de visées d'application immédiate, encore plus. Et puis, donc, pour savoir qui dans le public, non, pas votre public, mais dans le secteur public, fait de la recherche, il y a deux types en fait, de chercheurs. Il y a les enseignants-chercheurs et les chercheurs à temps plein. Et donc, en grande majorité, c'est ce que vous indique les chiffres qu'il y a là, on recrute surtout des enseignants-chercheurs, plus que des chercheurs à temps plein, qui sont plus rares. Et donc, ces enseignants-chercheurs, c'est typiquement moi. Je suis enseignant-chercheur. Il y a deux grades pour les enseignants-chercheurs. Il y a les maîtres de conférences, c'est un peu les sous-chiffres, non pas tout à fait, donc, là, et les professeurs d'université. Et donc, on sépare notre activité en plusieurs morceaux. Théoriquement, il n'y en a que deux très importants, c'est l'enseignement, 192 heures par an. Donc, ce n'est pas un service complet comme vos enseignants même peuvent avoir. Ça représente plutôt de l'ordre de 8 heures par semaine à peu près en moyenne. Donc ça, c'est relativement léger. Et c'est fait pour nous permettre de nous laisser le temps de chercher, même si on n'a jamais tout à fait assez de temps pour la recherche. Et puis en plus, on fait un peu d'administratif, c'est-à-dire que si la fac elle tourne, c'est aussi grâce à vous. Voilà. Bref, c'est les enseignants-chercheurs et les chercheurs. Et donc, si vous décidez de faire la recherche, vous avez presque plus de chances de terminer enseignant-chercheur que chercheur. Donc les enseignants-chercheurs, vraiment, le but, c'est de se tenir au courant de ce qui se fait comme recherche pour pouvoir transmettre la connaissance et aussi un peu l'organiser. Vous allez voir ça un peu. Et justement, pour organiser la recherche, en fait, les chercheurs ont besoin de communiquer entre eux. Et aussi de communiquer avec le grand public, mais surtout d'abord de communiquer entre eux et d'avoir un moyen de se faire passer entre eux leurs découvertes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le système de publication scientifique, qui est très très particulier, et que je tiens à vous détailler un petit peu ici, juste parce que c'est vraiment le quotidien des chercheurs. Alors ce qu'on appelle des publications, on écrit en fait dans nos domaines, on écrit des bouquins, mais très rarement. Et surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit des articles. Il y a très longtemps, Descartes et tout ça, eux, quand ils avaient des tas d'idées, ils faisaient un gros bouquin et ils communiquaient entre eux par bouquin. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait de la recherche, parce qu'il fallait pouvoir avoir du temps à consacrer à la recherche, et la plupart des gens étaient surtout occupés à essayer de se nourrir. Mais donc il y avait très peu de monde qui faisait de la science, et ils publiaient des livres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui fait de la science, et tout le monde ne peut pas s'amuser à sortir des livres tout le temps. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit des articles dans des revues scientifiques. Alors, c'est pas très sexy, en général, quand vous prenez une revue scientifique, c'est bourré de textes, d'équations, de formules, de graphiques, et c'est tout en anglais. Parce qu'aujourd'hui, toute la science, en fait, elle se fait en anglais. Et toutes les connaissances sont écrites en anglais. C'est pas toujours facile, d'ailleurs. Alors, voilà des noms de revues scientifiques. La plupart vont rien vous dire. Éventuellement, vous pouvez entendre parler dans les médias de publications dans Nature et Science, qui sont deux revues pluridisciplinaires qui publient donc les plus grandes découvertes. Quand, je ne sais pas, moi, par exemple, quand on explore Mars avec des robots, et ben souvent, les résultats, ou quand on a des collisionneurs de particules, les premiers résultats, les plus importants, sont publiés dans Nature ou Science. C'est vraiment extrêmement prestigieux comme journaux. C'est cela dont on peut entendre éventuellement parler dans le grand public. Après, ils ont des titres un peu plus bizarres. Il y a ce qu'on appelle la Physical Review, qui est divisée en ABCDE, parce qu'il y a trop d'articles, donc... un peu plus divisé. qu'Israël l'est. Ça, c'est la façon dont on a, en fait, de désigner les journaux entre nous. C'est tellement long d'écrire leur nom qu'on met des abréviations. Parce que, ouais, des fois, on les désigne aussi par juste les trois premières, enfin, leur acronyme, pardon, Physical Regulator, on dit que c'est PERL. Voilà, il y a aussi, moi, je publie, par exemple, dans le Journal of the Optical Society of America 1, et le Journal of the European Optical Society Rapid Publication. C'est ce genre de truc, voilà. Voilà, mais ça, vous n'avez sans doute jamais vu, et pour la grande majorité d'entre vous, vous aurez sans doute jamais à le faire. Ceci dit, toute la science et toute la connaissance que l'humanité accumule, elle est dans ce type de journaux. Alors, comment est-ce qu'on peut publier dans ces journaux? C'est aussi très important, vous allez voir, pour comprendre, je vais tout de suite dire pourquoi en fait la communauté scientifique considère que Claude Allègre a commis une sorte de crime en s'adressant au grand public directement quand il parle de climat. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc quand on veut publier un article, il ne suffit pas de dire « Oh, j'ai envie de publier un article ». En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. On propose à la revue un article et la revue a des éditeurs, c'est en général des grands pontes, des spécialistes du domaine, et eux, ils vont choisir, parmi tous les gens qu'ils connaissent, ils vont choisir une ou deux personnes, voire plus s'il y a besoin, qu'on appelle des reviewers, des référés, des rapporteurs ou des relecteurs, si vous préférez. Et eux, ils vont lire l'article et dire anonymement ce qu'ils en pensent. Anonymement, c'est pour que ça puisse jamais leur revenir, que ça puisse jamais leur coûter quelque chose si jamais ils refusent un article, s'ils disent que c'est nul ou s'ils demandent des modifications. Alors, le truc, c'est que du coup, ils ne se privent pas. Quand il y a un article et qu'il y a un truc qui ne leur plaît pas dedans, ils le disent toujours. D'accord? Pas toujours de façon très sympathique, d'ailleurs. Bon, après, il se trouve que... Donc, ce qui est important, c'est qu'un article qui est publié, il doit avoir réussi à convaincre deux relecteurs qui ont été des relecteurs très attentifs, qui ont tout lu en détail. Et si, par exemple, il manque, mais même, c'est pour vous dire, c'est au niveau d'une figure, ils disent « Ah, vous avez oublié de dire ce qu'il y a sur l'axe, là. Il n'est pas, vous n'avez pas mis les unités ou pas spécifié ça. » C'est vraiment, en fait, c'est très, ça apparaît pouillémesque. L'idée, c'est qu'il soit possible, juste en relisant l'article, de refaire la même expérience. On doit pouvoir tout refaire. Donc on est censé publier ces données, comment on a fait, comment on a calculé. Si jamais, par exemple, vous avez décidé qu'il y avait un ou deux résultats qui n'étaient pas suffisamment convaincants et que vous les avez mis de côté, il faut pouvoir expliquer pourquoi. Il faut pouvoir le dire, d'accord? C'est la transparence qu'on vous demande. C'est la seule façon de garantir que la science que vous faites, elle va être reproductible et que c'est de la vraie science. Voilà. Donc un article publié, c'est pas toujours la vraie vérité vraie, scientifique, parce qu'elle se construit petit à petit, n'empêche que ça a été relu et validé. Les gens, des fois, ils disent « Bon, je pense que ça doit être ça, mais dans ce cas-là, il faut quand même qu'ils présentent leurs arguments. » D'accord? Ça ne peut pas se faire jusqu'à ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ah oui, à la fois les éditeurs, les référis et les gens qui soumettent sont en fait les gens qui font de la recherche. Donc en fait, on est en général un peu des trois à la fois. Une sorte de schizophrénie. Mais voilà. Moi, par exemple, je suis les trois à la fois. En ce moment, j'ai un rapport à rédiger pour un article. Je suis aussi éditeur d'autres choses, et donc ça fait partie de la vie de tous les jours. Et en plus, j'ai déjà soumis un article en ce moment et j'attends une réponse. Vous voyez, c'est vraiment la vie de tous les jours des gens qui font de la recherche. Alors, c'est pas un système parfait, dans la mesure où il y a deux écueils qui n'arrivent pas tout à fait à éviter. Des fois, il y a des trucs complètement bancals et qui arrivent quand même à passer. Juste, alors, des fois, parce que des fois les éditeurs de revues très prestigieuses se disent « Waouh, cet article-là, si vraiment c'était vrai, ce serait super !» C'est pas très convaincant quand même, alors des fois ils font un truc un peu hypocrite. C'est arrivé en tout cas pour un truc qu'on appelle la mémoire de l'eau. C'est à quelqu'un qui a dit un jour, un Français, qui a dit « Waouh, c'est rigolo, si je mets des médicaments dans l'eau et puis que je les enlève, l'eau, elle a toujours l'air de faire le même effet que les médicaments, comme si elle avait gardé la mémoire des molécules. » En fait, personne n'a réussi à refaire ces expériences convenablement. On a fini par être convaincu qu'il s'était au moins trompé, voire même que c'était une escroquerie. Mais c'est quand même passé dans un journal très prestigieux qui, un peu hypocritement, avait mis une petite intro du genre « Oh ben, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit bien vrai, ça. Mais voilà, si c'était vrai, ce serait vraiment une révolution. » Voilà, donc ils l'ont sorti quand même. Donc, comme quoi, le système de relecture... En fait, je pense que les reviewers avaient fait des rapports sans doute défavorables. Ils disaient... Enfin, il y en avait peut-être un qui avait dit oui, d'accord, et l'autre qui avait dit non. Et comme ils ne savaient pas quoi décider du coup, ils ont décidé de s'en faire quand même. Et puis, il y a un autre travers. c'est que des revues très prestigieuses comme Nature, Science ou Physical Review Letter ont un peu tendance à ne vouloir que les grandes découvertes. Et vous allez voir, je vais vous en parler après, il est très difficile de dire, quand on lit un papier, si ce papier, ça va être un papier, c'est un article, si ça va être une grande découverte ou pas. Et au point que j'ai pris l'exemple de deux prix Nobel qui n'ont pas réussi à publier leur papier. Ils ont eu le prix Nobel pour deux papiers. Alors il y en a un qui est carrément le laser, l'invention du laser, et ils voulaient publier dans Physical Review Letters, et on lui a dit, ça sert à rien, votre truc. D'accord ? Parce qu'effectivement, à l'époque, le laser, on ne savait pas quoi en faire. Depuis, vous vous doutez bien qu'on a trouvé des tas d'idées, mais à l'époque, on ne savait pas. Donc, il n'a pas réussi à publier là où il voulait. Ça a été la même chose pour Herbert Fowler, qui a publié, en fait, en gros, c'était l'invention des diodes laser. Donc, quelque chose qu'on utilise maintenant dans les lecteurs CD, absolument partout. D'accord ? Dès qu'il y a des lasers, en fait, c'est des diodes laser qui les font quasiment dans les applications grand public. Et on lui a dit, même chose, il a tenté de publier ça dans un journal qui est pourtant beaucoup moins prestigieux, mais quand même, Applied Physics Letters, et on lui a dit, non, c'est pas la peine, ça sert à rien, votre truc. Donc c'est pas appliqué. C'est... Et il a eu le prix Nobel de 30 à 40 ans après, pour cet article-là. La seule chose, c'est qu'il était un peu trop en avance. Il a prévu des structures environ 20 à 30 ans avant qu'on sache les fabriquer. Et donc, à l'époque, ça paraissait complètement décalé, ce qu'il avait fait. Donc ça, c'est les deux écueils que le système n'arrive pas tout à fait à éviter. Ceci dit, c'est la science en train de se faire, donc c'est normal qu'il y ait des débats. C'est normal qu'on publie des choses qui ne soient pas tout à fait justes, parce qu'on n'a pas tous les éléments. Mais en gros, il faut voir ça comme une sorte de gros forum. Ouais, vous connaissez les forums sur Internet. Bah, nous, on a des forums compliqués, mais c'est la même chose. On dit que c'est des articles, mais c'est ça. Il y en a qui s'agressent par articles interposés, hein, qui s'engueulent. C'est comme ça qu'on fait la science. Et quand ils ne sont pas d'accord, ils publient quand même des articles, donc forcément, si les points de vue sont opposés, il y en a au moins un des deux qui a tort. Et donc ils publient des choses qui ne sont pas vraies, ou pas tout à fait vraies. Mais ça, c'est la science. Alors il se trouve que quand un article est faux, on a le droit, c'est une façon qu'on a de s'engueuler entre nous, de faire un comment. C'est-à-dire qu'on démontre, on publie un autre article juste derrière, qui démontre pourquoi le premier était faux. Si par exemple, on n'a pas réussi à reproduire les résultats.
Voilà, dans les théories, on passe. Ça se fait facilement en fait, parce qu'il y a quand même, si on veut, on pourrait y passer son temps d'ailleurs.
Mais il y a quelque chose qui est très 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 important et qu'il faut garder à l'esprit, c'est que jamais, au grand jamais, aucune théorie scientifique sérieuse qui a vu le jour après ou aucune découverte importante n'a été ratée par le système de publication. Ça a toujours réussi à être publié. Les prix Nobel dont je parle ont toujours réussi à publier. Einstein a réussi à publier alors qu'il était rigoureusement inconnu de tout le monde. On en reparlera après. Ou même des choses... Vous connaissez la dérive des continents ? Ouais. Au début, c'était une idée... Wegener, il a eu une idée qui était... ça a fait beaucoup marrer quand il est arrivé avec son idée, parce qu'en gros, son idée, c'était une idée de puzzle. Il s'est aperçu que l'Afrique, ça rentrait bien dans l'Amérique du Sud. D'accord ? Il a dit, wow, ça c'est une super idée, ça doit être que les continents dérivent. Personne ne l'a cru au départ. D'accord ? Donc il a... Alors, tous les journaux dont je parle n'existaient pas nécessairement à l'époque, mais il a quand même publié ses travaux. Il a quand même réussi, parce que, même si ça faisait rigoler tout le monde, ses arguments n'étaient pas complètement idiots. Il disait, bon, ouais, c'est vrai, il y a des arguments. Nous, ça nous paraît complètement débile de se dire que les continents y dérivent. N'empêche que, bon, il a des arguments, il faut creuser. Donc on a le droit de publier ses idées, ce qui fait que le système n'a jamais raté d'idées. Inversement, ça, c'est pour votre vie de tous les jours ou presque, notamment sur Internet. Si jamais vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est persécuté par la communauté scientifique et qu'il n'a jamais réussi à publier ses travaux, c'est que ce qu'il fait, c'est juste pas convaincant, pas valable. Il n'a jamais réussi à... Pourtant, je vous jure qu'il y a des journaux dans lesquels il est très facile de publier. D'accord ? Ça veut dire qu'ils ne sont pas très regardants sur la qualité des travaux. Ils sont regardants quand même sur le fait que ce ne soit pas juste n'importe quoi. Si quelqu'un n'arrive pas à publier, c'est que ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est important. Ça veut dire aussi qu'aucun chercheur ne doit, normalement, s'adresser directement au grand public en essayant de vous vendre ses découvertes. C'est louche. Les chercheurs, ils commencent par publier dans des articles, dans des revues comme ça. Comme ça, ils ont l'approbation, finalement, de la communauté. Quelqu'un d'anonyme leur a dit, d'accord, ce que vous faites, c'est valable. Et après, ils font des communiqués de presse et tout ça, et après, ça se répand dans les grands publics. Mais donc, pour prendre un exemple, Claude Allègre, quand il vous parle de climat, que d'Alève, il faut savoir une chose, il n'a jamais publié un article sérieux sur le climat. Donc, Claude Fest, c'est normal, il est géophysicien, il s'occupe de la physique de la Terre solide, pas du tout du climat. Donc en fait, il faut le dire, quand il s'adresse au grand public, c'est parce qu'il ne peut pas s'adresser aux scientifiques, il n'est pas capable d'écrire des articles potables sur le climat. Donc, en fait, il brouille le message de ce qu'on appelle le GIEC, qui est le groupement international d'études du climat. Il a été fondé en 1988. L'idée, c'était juste de dire, bon, on sait, c'est un avis qui traîne beaucoup dans la communauté scientifique, que le climat est en train de se réchauffer et que c'est dû au dioxyde de carbone. Mais évidemment, les revues dont je vous ai parlé, vous n'allez pas lire dedans, et donc vous n'êtes pas trop au courant de ce que pensent les chercheurs en ce moment. C'est normal. Donc ils se sont dit, il faudrait peut-être le dire clairement ça. S'il y a un consensus scientifique, c'est-à-dire si tout le monde est d'accord, il faudrait que ça aille jusqu'à transparaître au niveau du grand public. Et donc, ils ont réuni une équipe de très grands scientifiques, très reconnus, et ils leur ont dit, c'est simple, à vous tous, vous allez passer en revue tous les articles publiés sur le climat, et vous allez essayer de déterminer ce sur quoi tous les scientifiques sont d'accord. Et s'il y a des doutes, vous devrez les exprimer aussi à la fin. Et du coup, ils ont dégagé ce qu'on peut appeler un consensus scientifique. D'accord ? Maintenant, tout le monde chez les scientifiques est d'accord que le climat se réchauffe et que c'est de notre faute. D'accord ? À cause du dioxyde de carbone. Ça, vous pouvez le savoir pas mal. Et donc, tout ça, c'est publié dans un rapport dont il a été fait une version très courte de 20 pages que, à la limite, je vous conseille largement de lire. C'est pas dur, ça se trouve sur... Vous tapez rapport du GIEC dans Google ou dans un autre moteur de recherche. Et ces 20 pages... En 20 pages, vous aurez un exemple de ce que ça peut être que de la rigueur scientifique quand on rédige quelque chose. Tous les éléments sont pesés. Chaque mot a été pesé et validé par l'ensemble des scientifiques du GIEC, plus de représentants de tous les pays. Et en 20 pages, vous saurez tout ce que vous devez savoir sur les changements climatiques, si c'est dû ou pas à nous, et qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier, ou quels sont les scénarios futurs. Vraiment, c'est à mon avis quelque chose que je vous recommande vivement. Ça, au moins, c'est accessible, et ça, c'est pas en anglais. D'accord, parce que souvent les articles scientifiques, c'est un peu difficile d'accès, juste parce que c'est en anglais et que c'est très technique. Alors, juste un exemple comme ça aussi, pour vous apprendre à vous dépatouiller avec les... On entend beaucoup parler d'études scientifiques, genre, ouais, il y a une étude qui est sortie qui a prouvé que le téléphone portable était mauvais pour la santé. Et puis, ouais, il y a une étude scientifique qui est sortie qui prouve le contraire. Et ça, c'est des choses qui transparaissent dans les médias, parce que le téléphone portable, c'est quelque chose qui nous touche tous à peu près. Bon, alors, ce qu'il faut conclure du fait qu'on entend dans les médias qu'il y a des études qui concluent que oui et d'autres qui concluent que non, c'est qu'elles ont toutes beaucoup de difficultés à dire si oui ou non il y a un effet, c'est-à-dire que l'effet est très petit. Je ne peux pas vous dire qu'il n'existe pas, personne ne le peut, sinon les scientifiques l'auraient fait, ils seraient tous mis d'accord. Il n'y a pas de consensus, mais en fait, il y a un consensus sur le fait que c'est à peu près indétectable. Si on regarde, par exemple, les cancers, les maladies et tout ça, on n'arrive pas à détecter l'effet du téléphone portable. Il y en a qui le voient, il y en a qui le voient pas, donc c'est très très faible. Donc, c'est pas parce que aussi on vous fait part d'une découverte scientifique, soi-disant, ou du résultat d'un article, qu'il faut y faire confiance tout de suite. Il faut souvent attendre que le consensus se mette en place. C'est pour ça que le GIEC, c'est important. C'est faire ressortir le consensus scientifique une fois qu'il est là. Tant qu'il n'y en a pas, il ne faut pas tout prendre. Et puis, les gens, des fois, se dédisent, c'est-à-dire qu'on croyait avoir trouvé un lien entre l'absorption d'aluminium et la maladie d'Alzheimer. Et les mêmes scientifiques qui ont publié cette étude viennent de publier il n'y a pas très longtemps une étude qui dit que finalement, non, sans doute pas. Alors, ce n'est pas encore tout à fait sûr, mais voilà, il faut prendre avec des pincettes ce que vous pouvez voir dans les médias aussi sur des découvertes extrêmement récentes quand elles sont un peu polémiques. Ça, c'est juste pour vous continuer à téléphoner. Pardon. Voilà. Et une question oui, que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous prenez la voiture ? Vous baladez en voiture en moyenne un peu ? Ouais. Alors, vous prenez sans doute... Ça, je pense que tous les scientifiques sont d'accord. Beaucoup plus de risques en faisant ça qu'en utilisant votre téléphone portable. Parce qu'on sait quantifier le nombre de morts par an en France, et il est quand même de plusieurs milliers, sans compter les blessés. Donc, alors qu'on sait, on n'arrive pas à compter le nombre de morts vus au téléphone portable, parce qu'on pense que c'est très faible. Voilà. Il y a aussi un autre très gros mouvement de la science en ce moment, c'est ce qu'on appelle l'open access. C'est un petit peu lié à Internet. Vous commencez à être habitué, vous j'imagine, mais la transparence, c'est quelque chose qui, sur Internet, est... important, la transparence de tout le monde, de sa vie privée, Facebook, tout ce qu'on veut. Et les scientifiques n'y sont pas tout à fait insensibles. En fait, il faut savoir que les journaux dont je vous parlais, l'abonnement à une revue scientifique, c'est de l'ordre de 1500 euros par an. Donc c'est super cher. Et même les universités ont du mal à se payer l'abonnement. Pour vous donner un ordre de grandeur, mon université a décidé qu'elle allait réduire le nombre de ses abonnements pour la physique notamment, et elle en garde juste une centaine. Vous avez une idée des budgets que ça représente, voilà. Et le problème, c'est que toutes les universités ne peuvent pas se payer ça, notamment les universités du tiers-monde, ce qui les empêche complètement d'avoir accès aux dernières nouvelles scientifiques, donc ça les empêche en fait de faire de la recherche. Donc il y a un grand mouvement qui prend naissance, et qui est ce qu'on appelle l'open access, c'est-à-dire que au lieu de payer pour lire, on paye pour publier. Mais par contre, après, lire, c'est gratuit. Donc c'est des publications auxquelles même vous, sur Internet, vous pouvez avoir accès. C'est libre. Le but, c'est de les diffuser le plus possible. Donc on inverse un peu le modèle. Bon, par contre, c'est la publication d'un article qui revient des fois à 1500 euros. Voilà. Alors voici des exemples d'initiatives open access. Donc vous voyez rien, hein, si vous êtes trop loin. Mais c'est pas grave, croyez-moi. En haut à gauche, c'est ce qu'on appelle Optics Express. En quelques années, ce journal, Open Access, est devenu le principal journal dans lequel se publient les découvertes en optique. Voilà, notamment les photovoltaïques, tout ça, ça marche très très fort. Il publie de l'ordre de plusieurs milliers de papiers par an, de l'ordre de 4000, qui sont tous au minimum à 1000 dollars le papier. Ça marche bien dessus. Bon, mais c'est une société savante. Il y a quelque chose qui a été monté pour faire concurrence à Nature, ce qu'on appelle Public Library of Science. Là, j'ai plus médecine. Donc ça aussi, c'est quelque chose auquel vous pouvez avoir accès. Et puis, il y a un truc dont vous entendrez peut-être parler dans les années qui viennent. Il y a les scientifiques qui essaient en ce moment de faire une encyclopédie rédigée en gros par des prix Nobel et des experts mondialement reconnus. C'est-à-dire c'est du Wikipédia, mais pas par n'importe qui. Et en plus, c'est revu par les pairs, c'est-à-dire qu'on fait appel à des reviewers, des relecteurs, pour ça. Et donc ça s'appelle Scholarpedia. Et il y a des gens très très bien qui sont éditeurs de ce genre de choses. Voilà. Bon, c'est pas discret. Je suis éditeur de Scholarpedia. Ok, alors l'explosion de la recherche. Il y a un mouvement qui a pris naissance il y a relativement longtemps avec l'apparition des premières universités, des premières académies. C'est le fait que on commençait à se dire que chercheur, ça pouvait être un métier à temps plein et intéressant pour la société, et que c'était pas juste des gens comme Lavoisier, par exemple. Lavoisier, c'est parce qu'il était riche qu'il arrivait à faire de la recherche. C'était son passe-temps. Voilà. Donc il fallait qu'il y en ait qui aient la chance de pouvoir faire de la recherche, et ça se basait un peu là-dessus. Il y avait pas, on disait pas, ah, toi, t'es bon, tu vas aller faire de la recherche. Donc c'est quand on a monté les universités, les académies, qu'on a commencé à permettre à des gens de travailler là-dessus. Et puis, on s'est aperçu, notamment avec la révolution industrielle, que la science, ça pouvait apporter beaucoup de choses, beaucoup de compréhension, quand on a inventé la thermodynamique pour faire marcher les machines à vapeur, etc. Et aujourd'hui, la croissance économique est très dépendante de la recherche. Au point que justement, même les entreprises se sont mises à faire de la recherche, parfois très fondamentale, il faut le dire quand même. Et aujourd'hui en France, par exemple, la recherche occupe quasiment 1% de tous les gens qui travaillent. C'est 0,77% des actifs, et ça augmente toujours. Et c'est une quantité de gens qui font de la science qui est absolument hallucinante. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on avait eu 1% des gens qui faisaient de la recherche. C'est énorme. Ce qui fait que la grande majorité des scientifiques qui ont jamais existé vivent encore aujourd'hui. Voilà. Tout ça pour dire qu'en tout cas, il y a plein de chercheurs. Et que du coup, ils font plein de choses. Alors, il y a quelques grands trucs à savoir sur la recherche. D'abord, la recherche... on a donc embauché des gens pour faire de la recherche, mais le problème c'est que on ne peut pas prévoir les résultats de la recherche. Je suis incapable de vous dire ce que je vais faire dans 3 ans, mais rigoureusement incapable. Si ça se trouve, en plus, ce que je crois actuellement ou à peu près sur mon domaine, ça sera révélé faux, je vous en parlerai après, ou faux ou pas tout à fait exact. On aura complété, on va pouvoir faire des trucs fantastiques, voilà. Donc on ne peut pas prévoir les résultats de la recherche. Les ruptures technologiques, par exemple, sont toujours inattendues. On dit couramment que c'est pas en essayant d'améliorer la bougie qu'on a inventé l'électricité. Ça se comprend. D'accord ? C'est en faisant de la recherche fondamentale à côté. Et cependant, c'est bien l'électricité qui a remplacé la bougie. Autrement dit, c'est pas parce que... Enfin, il est difficile pour des... Même si les politiques ont très envie, par exemple, qu'on améliore tel ou tel aspect d'énergie ou tout ça, c'est pas en mettant beaucoup d'argent sur ce sujet-là qu'on va résoudre le problème finalement. Si ça se trouve, c'est en mettant de l'argent à côté. Donc les chercheurs sont un petit peu jaloux, il est vrai, de leur indépendance, Parce que c'est vrai aussi, ils sont souvent les seuls à pouvoir juger de si une voie risque d'être bonne ou pas. C'est extrêmement difficile de le faire en étant à l'extérieur. Donc tout n'est pas faisable, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez faire de la recherche que vous allez casser une loi physique. Par exemple, il y a un exemple très célèbre, ce qu'on appelle le mouvement perpétuel. Pendant des centaines d'années, les gens ont cherché à créer une machine qui tournerait toujours et qui pourrait fournir du travail. Au bout d'un moment, on a compris que c'était une loi physique, que l'énergie, ça se conservait, qu'on pouvait la tirer d'un endroit, mais qu'on ne pouvait pas la sortir de nulle part. Donc une machine qui tournerait toujours en fournissant de l'énergie, ça ne peut juste pas exister. Donc ce n'est pas en faisant de la recherche là-dessus qu'on va réussir à casser une loi de la physique. C'est ça que je voulais dire, d'une part, tout n'est pas faisable. Ce n'est pas parce qu'on a envie de faire un truc que c'est possible. C'est juste ça. Et puis, il faut aussi parfois très longtemps pour qu'on comprenne l'importance d'une découverte. J'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, et puis je vous redonnerai des exemples après. Des fois, il n'y a que 40 ans après un article qu'on se dit « mais oh, c'était génial !» Et même le gars qui le faisait à l'époque, ils n'étaient pas du tout persuadés que c'était génial. Il y a des gens qui ont le prix Nobel qui sont très surpris. D'accord. Voilà. Et il y a un autre truc qui est finalement très important pour expliquer à quel point la recherche avance en ce moment et aujourd'hui, c'est que quand vous faites des découvertes dans un domaine, en général, ça a une répercussion dans plein d'autres domaines. Et on va prendre un exemple très parlant, parce que c'est un peu la découverte qui a eu, on va dire, sur les 50, 70 dernières années, peut-être le plus d'impact sur toutes nos sociétés. Vous avez une idée de laquelle je parle ou pas ?
Non.
Ah, ouais, je ne peux pas deviner. J'ai entendu quelque chose ? À votre avis, faites-vous une idée, puis vous verrez après si c'est ça. C'est le transistor. C'est au point que l'on retient la date du 23 décembre 1947, le jour où ils ont inventé le transistor. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que c'est à la base de tout ce qui est ordinateur, mémoire, téléphone portable qui tombe par terre, tout ce qui... Voilà. C'est à la base de tous ces trucs-là. Et en fait, c'est à la base de l'accélération de la technologie sur à peu près toutes les 50-60 dernières années. Et c'est symbolisé par ce qu'on appelle la loi de Moore. Le Moore, c'est un des fondateurs d'Intel, et il a dit, c'est rigolo, quand même, depuis que je suis dans l'industrie des semi-conducteurs, il a dit ça en 1965, j'ai l'impression qu'on arrive à mettre deux fois plus de transistors sur une puce tous les deux ans. Et il a dit ça très tôt, au début. Et en fait, ça a continué comme ça pendant les 30 années qu'on suivit. Donc, en 1965, ils arrivaient à mettre 64 transistors sur un morceau... Ils étaient déjà super contents. En 71, 6 ans après, ils arrivaient déjà à en mettre 64 000, ou à peu près. En 1980, alors là on passe aux mémoires. Les mémoires, c'est fait à base de transistors, mais pour chaque... Vous savez, vous parlez en kilo-octets. Oui, peut-être, en méga-octets. Oui. Un octet, c'est 8 bits. Et un bit, en fait, de mémoire, en fait, c'est représenté par plusieurs transistors sur une puce. Donc, quand on dit 64 kilobits, et eh bien en fait, c'est 64 000 bits, donc je ne sais pas combien ça fait de transistors, mais ça fait déjà un paquet. Ça, c'était en 1980, hein, quand ils avaient un ordinateur avec une mémoire de 64K, ils étaient tout fous. Vous, vous rigolez maintenant, parce qu'évidemment, le moindre de vos téléphones portables, il a quoi en mémoire, hein? Il a de l'ordre de 8 gigas, 16 gigas, 32 gigas, c'est à peu près ça. Donc évidemment, c'est des millions de fois plus qu'à l'époque, et ça vous paraît juste normal. Bon, et là, c'est pas tout à fait normal, voilà. Ça va aussi un peu s'arrêter dans les années qui viennent, parce qu'on commence à plus pouvoir graver de plus en plus fin. Là, on arrive à la taille bientôt des atomes, et à un moment, on va s'arrêter forcément, quoi. Mais, bon, on sait que ça va s'arrêter, n'empêche que sur les 30 à 40 dernières années, cette loi exponentielle, cette croissance exponentielle, explique en grande partie tout notre progrès technologique. On parle de révolution des nanotechnologies, mais en fait, on y est déjà. C'est une révolution industrielle basée sur les semi-conducteurs et donc l'informatique. Vous savez bien que l'informatique, ça progresse très vite. Donc, ça a permis de développer l'industrie des semi-conducteurs, de développer l'informatique et de doper la façon, ça a changé complètement la façon de faire de la recherche. Dans les années 70-80, on s'est mis à utiliser des ordinateurs dans à peu près tous les domaines de la science, qu'il s'agisse de la biologie, il y a la bioinformatique maintenant, de la physique, de la chimie, des maths. Ça a permis de faire des choses absolument insoupçonnées. Et donc, c'est ce que je dis là, jamais on a cherché autant, aussi bien et aussi vite. Le progrès, dont on doute de plus en plus, en fait, a jamais été aussi rapide qu'en ce moment. Et c'est un rythme qui est lui aussi exponentiel. Ça va très, 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 très vite. Alors, je vais vous donner une illustration pour vous expliquer un peu le rôle de l'informatique. Voilà. Pour vous donner une idée, avant 1900, et notamment avant l'arrivée d'Einstein, on faisait plus confiance aux expériences qu'aux lois physiques ou aux équations. D'accord ? La seule chose qui valait, c'était bien sûr, c'était l'expérience. Bon, on collait des lois physiques, mais on se disait que c'était une approximation ou à peu près. Un exemple célèbre, c'est Planck. Alors, ce qu'il faut dire, les deux exemples célèbres. D'abord, c'est qu'en 1864, que pour la première fois, c'est Maxwell, il a prédit qu'on devait pouvoir observer un phénomène avant de l'avoir vu. Alors qu'avant, il faisait l'expérience, puis il faisait la théorie. Là, la théorie donnait comme conclusion qu'il y avait un phénomène, c'était les ondes radio et la lumière qui devaient exister. Alors la lumière, on savait que ça existait, mais les ondes radio, à l'époque, ils ne savaient pas. Et du coup, ils ont fait l'expérience qui correspondait, c'est Hertz en 1888, et ça a marché. C'était la première fois que la confiance dans les équations permettait de prédire un phénomène. Et un autre exemple, c'est Planck, qui a fait un calcul en 1899, il trouvait ça moche, parce qu'il avait introduit une petite hypothèse dedans, et il disait, bon, je publie le calcul quand même, parce que ça marche vraiment trop bien. Mais franchement, je ne sais pas pourquoi ça marche, et cette hypothèse, c'était juste moche. Et derrière, il y a Einstein qui est arrivé, je ne veux pas diminuer son mérite, mais en fait, Einstein, il avait un énorme mérite, c'est qu'il croyait plus aux équations qu'à l'expérience. C'est le premier physicien théoricien. C'est-à-dire qu'il, lui, faisait aucune expérience, tout ce qu'il faisait, et qu'il prenait les équations, il regardait leurs conséquences, et il a dit aux autres, dans 3 articles célèbres en 1905, « Bah, il suffit d'y croire. » En gros, c'est ça. Il a dit, en fait, ce que Planck a mis dans ses équations, ça peut s'interpréter. On va dire qu'en fait, la lumière, elle se transmet par paquet. C'est ce qu'on a appelé les photons. Mais en fait, il a juste dit à Planck, « Il suffit de croire à tes calculs. » Et puis, c'était la même chose pour la relativité restreinte. Il a dit, si vos équations de Maxwell, les mêmes qu'on prédit, permis de prédire les ondes radio, elles vous disent que la lumière, elle va à la vitesse C, quel que soit son référentiel et tout ça, c'est que ça doit marcher. Et effectivement, il avait raison. Et il en a tiré des tas de conséquences, si ça, sa force, mais il avait raison de croire aux équations. Aujourd'hui, c'est complètement inversé. On croit plus aux simulations qu'à l'expérience. C'est au point que, en fait, je peux vous citer des articles, j'en ai relu il n'y a pas longtemps, ils ont une expérience et puis ils ne comprennent pas bien les résultats, alors ils font des simulations et la conclusion c'est que l'expérience n'était pas bien faite. Ce n'était pas exactement ce qui était prévu par les simulations. Parce que les simulations elles sont toutes d'accord entre elles, ça on a une confiance absolue. Quand l'expérience ne redonne pas la même chose que ce qu'avaient prévu les simulations, c'est l'expérience qui a tort, c'est qu'elle n'a pas été parfaitement faite, etc. Et ça se vérifie. C'est-à-dire au point que, je peux vous donner un exemple, mon travail à moi, je ne touche pas une seule manip. Je fais de la recherche, mais je ne touche pas un seul truc d'optique. Je fais tout sur ordinateur. Donc mon boulot, ça s'approche plus de celui d'un mathématicien ou d'un informaticien. Je crée des codes pour simuler les phénomènes physiques. Je regarde ce que ça peut donner. Je change les structures, je fais des essais. Ça permet aussi, par exemple, d'optimiser, c'est-à-dire de prendre des structures bien plus efficaces. Au lieu de faire plein d'expériences pour déterminer quelle structure est efficace, on fait tout sur ordinateur, et après on fabrique directement la meilleure. Et c'est ce genre de choses qu'on fait et qui sont très intéressantes. La climatologie n'existe que grâce aux ordinateurs. Parce que pour prédire le climat, il faut absolument des ordinateurs. Alors j'ai mis un truc aussi compliqué là-haut. En physique, l'ordinateur a libéré les physiciens parce que, avant l'invention de l'ordinateur, la seule façon d'obtenir un résultat, c'était de résoudre une équation et de savoir exprimer le résultat en termes de sinus, cosinus, bref, de fonctions qu'on connaissait. À partir du moment où on a des ordinateurs, on peut obtenir une courbe sans que son expression ce soit des sinus, des cosinus et des choses comme ça. Et on peut réfléchir et faire de la science avec quand même. Donc ça a complètement changé la façon de faire de la physique. Au point que peut-être même, on a un petit peu oublié la façon à l'ancienne de faire avec les équations. Bref, ça c'est juste pour illustrer des choses. Si vous tapez top 500 dans un moteur de recherche, vous allez tomber sur le top 500 des plus gros ordinateurs du monde. Et leur capacité, c'est écrit là, en fait, c'est absolument hallucinant. Donc là, le plus gros du monde pour l'instant, il est chinois, c'est la première fois que ça se produit. Et il a 186 300 cœur, c'est-à-dire processeur. C'est pour vous donner une idée. Les suivants ne sont pas en reste non plus. Voilà, ils ont une mémoire qui est absolument hallucinante et ils consomment aussi beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc d'autres exemples de comment est-ce que des progrès en physique solide ont permis de faire des progrès en astrophysique. Avant, l'astrophysique, quand ils voulaient faire une image d'étoile, ils avaient des plaques photo. Ça prenait des heures. Avec des capteurs CCD, comme ceux qui sont dans vos appareils photo, en une seconde, on fait beaucoup mieux qu'avec une plaque photo. En biologie, pour faire le séquençage du génome, il a fallu automatiser énormément de tâches, parce qu'on ne peut pas s'amuser à détailler les gènes un par un. C'est fait par des machines et des ordinateurs, ce qu'on appelle la bioinformatique. Donc ça, c'est deux exemples de choses qui sont récentes, essentielles, et qui n'ont été permises que par l'informatique. Alors on arrive au dernier morceau. C'est la recherche aujourd'hui, et puis même un peu demain, ce qu'on envisage demain. Juste là, pour commencer à parler de la recherche d'aujourd'hui, je vais commencer à parler un petit peu plus de ce que moi je connais le mieux, parce que franchement, les avancées en biologie, je ne suis pas tout à fait au courant des dernières. Donc ça va être un petit peu orienté physique, vous m'excuserez. Mais il y a aussi plein de trucs fun, alors bon. Alors, les trois lois de Clark sont particulièrement sympathiques. Donc Clark, c'était un auteur de science-fiction, un des trois plus grands auteurs, je l'ai dit. La première est assez rigolote. Donc quand un vieux scientifique vous dit que quelque chose est probablement possible, il a très certainement raison. Donc vous pouvez être sûr, quasiment, que ça va arriver. S'il vous dit que c'est impossible, il a sans doute tort. Ça va arriver quand même. Donc en gros, ça c'est pour dire que même les trucs qui nous paraissent impossibles, c'est aussi un peu ça la deuxième loi, avec la recherche. Je vous ai dit qu'on ne pouvait pas faire des choses impossibles, c'est vrai, mais il y a des tas de choses qui nous paraissent actuellement impossibles et qui en fait ne le sont pas. Et c'est ce que dit la deuxième loi. La seule façon de trouver les limites du possible, c'est d'aller un petit peu au-delà, dans l'impossible. Et de faire des trucs qui ont l'air impossibles. Et il y en a une troisième qui est assez rigolote, c'est que toute technologie suffisamment avancée ne peut pas être distinguée de la magie. Ça vous paraît de la pure magie. Et pour vous dire, ça c'est vrai, c'est-à-dire que si on montrait la recherche actuelle, ce qu'on est en train de faire, à quelqu'un qui est resté à ce qui se faisait il y a 10 ans, il ne comprendrait même pas comment on est arrivé à faire ce qu'on fait. Ça lui paraîtrait de la magie. Voilà. Et je le sais parce que j'ai à peu près 10 ans d'expérience dans le domaine de la recherche. Et il y a 10 ans, ce n'est pas possible de dire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc je vais prendre mon domaine pour voir ça, et je vais vous donner un exemple assez rigolo. En 64, il y a un russe qui s'appelait Vézelago qui a dit « Oh, c'est marrant, il se passerait des trucs bizarres si les matériaux... » Alors les matériaux pour la lumière, ils sont caractérisés par deux valeurs, epsilon et mu. Pas besoin de savoir ce que c'est, mais epsilon et mu, de toute façon c'est positif. Donc ça, ils savent ça depuis des dizaines, voire limite des centaines d'années. Epsilon et mu, c'est positif. Bien. Et lui, il a dit, c'est bizarre, si les deux étaient négatifs, ça ferait des tas de trucs rigolos, des lentilles plates, tout ça. Évidemment, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Ou plus exactement, personne n'a tellement lu son article qui a été publié dans un truc obscur, Soviet Union, etc. Voilà. Et puis c'est resté ignoré. Jusqu'en 99. Là, il y en a un qui a dit, c'est marrant quand même... Si jamais vous faites des trucs vraiment tout petits, parce qu'avec les nanotechnologies, on est capable de faire des trucs plus petits que la longueur d'onde de la lumière. Si vous organisez la matière d'une certaine façon, il expliquait comment, c'est marrant, mais les trucs avec epsilon et mu négatif, c'est possible. Donc là, une sorte de panique s'empare de la communauté scientifique sur le thème, on a raté la moitié de la physique. On connaissait que les matériaux avec epsilon et mu positif. Et tous ceux avec epsilon et mu négatif, on a oublié de les étudier. Et donc, alors que l'article de Vézelago n'était pas inaperçu, en une dizaine d'années, il a été cité 1500 fois. À la fin de chaque article, on dit la liste des articles sur lesquels on s'est basé. On en met en général entre 10 et 50. Et ça veut dire que... Je suis déconnecté. Ça veut dire que, en 10 ans, il y a 1500 articles de recherche qui sont sortis et qui utilisaient les résultats de 1964 qui avaient été complètement ignorés. Voilà, donc c'est ce qu'on a appelé des matériaux d'indice négatif, et pour vous montrer à quel point c'est révolutionnaire et ça choquait, vous vous souvenez de, oui, vous avez vu ça en seconde, les lois de Descartes, la réfraction. Vous vous souvenez, les rayons lumineux qui font ça, ça. On vous a toujours dit, ça fait ça, là, comme ça, puis ça arrive dans l'autre cadran, là. Alors regardez ce que ça fait, epsilon et mu négatif. Ça part dans l'autre sens. Donc un truc qui était connu depuis Descartes et qui était dur comme le rayon, il arrive comme ça, il repart dans l'autre sens. dans l'autre cadran, dans pas le bon. Bon, ben voilà, maintenant on sait fabriquer des trucs comme ça. Et ça, ça vient que, ça date que de l'an 2000 ou à peu près. Avant, on ne savait pas le faire, on ne savait même pas que ça pouvait exister. Et avec ça, on peut faire des tas de trucs rigolos. Notamment, en fait, des lentilles plates. C'est plat, mais ça marche comme une lentille. Mieux, on s'est aperçu que la lentille plate, elle était ce qu'on appelait, si on arrivait à la faire vraiment nickel. On n'y arrivera peut-être jamais vraiment à faire la lentille parfaite, parfaite, mais une lentille plate comme ça, elle serait parfaite. Elle n'aurait pas d'aberration géométrique, c'est-à-dire le fait qu'elle est courbée. Et surtout, il y avait ce qu'on appelait la limite de Rayleigh, qui était un truc qui disait, qui est très connu en optique, qui dit il n'est pas possible de faire une image correcte de quelque chose qui est plus petit que la longueur d'onde de la lumière. Ça se comprend un petit peu. Si c'est plus petit que la longueur d'onde, si vous avez un détail plus petit que la longueur d'onde, vous ne pouvez pas le voir parce que c'est la lumière qui vous transporte l'information et elle n'est pas sensible au truc plus petit que la longueur d'onde. Et bien en fait, avec une lentille parfaite, on s'est aperçu que si. Grâce à la lumière, on pouvait quand même faire l'image de trucs plus petits que la longueur d'onde. Donc sur ça aussi, on avait tort. Et puis on peut même en faire ce truc-là, là. Si vous prenez le matériau et les matériaux main gauche, et que vous en entourez donc une région sphérique de l'espace, ben vous voyez que la lumière, c'est les rayons lumineux qui sont dessinés, ça passe autour et ça sort derrière comme s'il n'y avait rien eu. Ça, c'est ce qu'on appelle une cape d'invisibilité chez nous. Voilà. Alors, il y a 2-3 limitations quand même. Pensez pas tout de suite à Harry Potter. Faut plutôt penser à un terre invisible. Parce qu'il y a quand même une grande loi d'optique, c'est la loi qu'on appelle du retour inverse. Pour dire simplement, c'est si tu me vois, je te vois. Si je te vois, tu me vois. D'accord? C'est toujours vrai. Et notamment, si tu me vois pas, ben je te vois pas. Donc si vous mettez quelqu'un dans ce truc-là, il voit rien de l'extérieur. Parce que si vous voyez quelque chose de l'extérieur, ça voudrait dire qu'il prélève de la lumière, donc qu'on peut le détecter. Donc en fait, quand on est dedans, eh ben, on est dans une sorte de truc comme s'il y avait un miroir autour, et puis on voit rien de l'extérieur. Puis en plus, on est dans une boule, donc c'est pour ça que je parle de hamster, si vous voulez avancer. Ben... Voilà, bon bref. Mais n'empêche que ça, c'est une démonstration que c'est possible de rendre un objet invisible comme ça. Évidemment, les militaires ont été très 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 excités par cette idée-là, parce que ça marche aussi dans le domaine radar. Très excités. Bref. Bon, maintenant, on cherche avec d'autres géométries que la boule, etc. Bref, on fait de la recherche sur l'invisibilité. Quelque chose qui n'était pas faisable il n'y a pas très longtemps. Maintenant, donc ça, c'était pour mon domaine à moi, et c'est pour vous dire que je ne sais pas du tout de quoi aura l'air mon domaine dans 10 ans. C'est pas possible. S'il retombe un truc comme ça, et c'est pas exclu, enfin, ça va encore tout changer. Donc la science avance très très vite. Et puis, elle avance très vite, un peu plus lentement, mais quand même, quand il s'agit de big science, c'est-à-dire quand il s'agit de construire des trucs réellement énormes. Parce que plus ça va, et plus on a besoin de trucs réellement énormes pour arriver à répondre à certaines des questions qu'on se pose. Alors, le plus célèbre, peut-être, en ce moment, c'est le Large Hadron Collider, le LHC. Vous en avez entendu parler, c'est le plus grand accélérateur du monde, il se situe à cheval entre la Suisse et la France. Donc voilà. Il y a ce qu'on appelle le très grand télescope, l'extrêmement grand télescope, qui est un truc que les Européens vont construire en Amérique du Sud, ITER et la fusion nucléaire. Et puis je vous parlerai un petit peu des voyages spatiaux, juste pour finir sur une note de science-fiction, parce que quand même. Alors. Ce qu'on appelle donc le Large Hadron Collider, c'est un accélérateur de particules. En fait, pour pouvoir tester la résistance des lois de la physique qu'on connaît, c'est-à-dire si elles sont vraiment vraies ou s'il y a des petites corrections à apporter, il faut vraiment faire des expériences monstrueuses, c'est-à-dire qu'on envoie des noyaux de plomb accélérés à... En fait, ils sont presque à la vitesse de la lumière, à en gros 3 mètres par seconde près. Donc ça fait un paquet de kilomètres par seconde. 300 000 km par seconde, et il tourne donc dans un accélérateur de 27 km de diamètre. Donc c'est un truc énorme, c'est la plus grande machine, les plus grands appareils jamais réalisés par l'homme, d'accord, 27 km de diamètre, ça n'a pas fait mieux tellement, les plus gros détecteurs, vous allez voir, je vais vous montrer une petite image, et un truc qui est rigolo, c'est qu'au moment où ils ont conçu la machine, ils savaient qu'elle allait produire autant de données que ce qui circulait sur tout Internet à l'époque. Mais ils avaient fait le calcul que grâce à la loi de Moore, dont je vous ai parlé, ils auraient des ordinateurs suffisamment puissants dans 10 ans pour absorber ce volume de données. Voilà, c'est pour vous dire un peu ce que c'est que la big science. Quand ils y vont carrément, quoi. Alors voilà, donc il y a 27 km de diamètre, ben voilà, vous avez la carte ici, c'est près de Genève, vous avez la carte, voilà, il y a des villages, des routes, et voici l'accélérateur qui est en dessous, et, ah, on voit pas très bien là, ça c'est un détecteur, il y a quelqu'un en fait dessus, si vous le voyez, on voit surtout son casque blanc, un petit bonhomme bleu là, qui doit faire en hauteur aller à un dixième de l'image. Ces trucs-là pèsent des centaines de tonnes, c'est juste énorme. Et donc, c'est les plus grands détecteurs qu'on ait jamais construits. Il y a 4 détecteurs sur le LHC. Et voilà. Bon. C'est pour vous dire. Donc ça, c'est une quantité de travail absolument hallucinante pour des milliers de chercheurs. En fait, il faut plusieurs milliers de chercheurs pour chaque détecteur. Hop. Alors, dans le futur, c'est toujours la même chose aussi. La science est imprévisible. Pendant des années, depuis les années 50, on fait des accélérateurs en roue. Ça marche très bien. Mais on sait qu'on ne pourra pas faire beaucoup plus grand que celui qu'on a fait. Heureusement, la science est arrivée, ou à peu près, enfin plus exactement, ils ont fait des progrès ailleurs qu'en physique des particules, dans le domaine des lasers. Ils ont commencé à comprendre comment faire des lasers vraiment, vraiment puissants. Tellement puissants qu'ils sont capables d'accélérer les particules encore mieux qu'un accélérateur circulaire. C'est-à-dire qu'un accélérateur circulaire, pour réussir à accélérer une particule, il faut qu'elle fasse beaucoup de trajets. Et sa vitesse augmente, 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 augmente. Avec des lasers, ça se fait sur quelques centaines de mètres. Poum, d'un coup. Donc en fait, les prochains accélérateurs de particules, ils seront tout droits. Vous auriez dit ça il y a encore 10 ans à quelqu'un qui s'y connaissait en accélérateur de particules, il ne vous aurait pas cru. Mais dans 10 ans, ils existeront. Voilà. Bon, ça c'est pour vous dire aussi un peu à quelle vitesse ça peut avancer. Alors il y a ce qu'on appelle ITER. On va avoir des problèmes de fourniture d'énergie quand le pétrole, parce que dans la dizaine d'années qui vient, le pétrole risque de devenir cher. Et c'est notre source principale d'énergie. On aimerait bien, si c'était possible, maîtriser la source d'énergie des étoiles, qui est la source primordiale d'énergie de l'univers. Hein. C'est, voilà. Elle est basée sur la fusion de l'hydrogène qui est présent dans l'eau. Donc en gros, on peut tirer de l'énergie de l'eau à condition de faire de la fusion. C'est-à-dire d'atteindre des températures qui sont celles du cœur des étoiles. Ce n'est pas très facile à faire sans faire justement exploser tout le labo. Donc, ils prennent beaucoup de précautions pour faire ça. Et voici comment ils le font. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des tokamaks, des chambres toroïdales. Donc c'est un tore. Et on met des champs magnétiques super intenses pour éviter surtout que le plasma qu'on forme touche les parois. Parce que quand il est à plusieurs millions de degrés, les parois ne résisteraient pas. Donc on les confine grâce à un champ magnétique, et au bout d'un moment, quand on les confine suffisamment, la réaction nucléaire s'enclenche, et tchou, ça fait un gros flash, qu'on voit ici, là. Vous voyez, on voit un petit peu la forme de la chambre toroïdale. Non ? Ouais, vous êtes gentils. Et donc on voit un gros flash d'énergie. Ce flash, c'est la fusion nucléaire, c'est-à-dire quelque chose qui se produit soit au cœur des bombes H, soit au cœur des étoiles. Et on espère maîtriser ça, parce que si c'était ça, on n'aurait plus du tout de problème de fourniture d'énergie. On aurait accès à la source principale d'énergie de tout l'univers. Voilà. Et voilà. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que le projet international qui est en train de se monter en France, il s'appelle, pour construire un gros truc comme ça, encore plus gros que les deux que vous avez vus là, il s'appelle ITER, ce qui en latin signifie le chemin. Voilà. Et puis, toujours la même chose, il se trouve qu'ils ont construit, ils sont en train de construire ITER, mais assez récemment, toujours la même chose, ils savent accélérer les particules, ils se sont aperçus que peut-être qu'ils pourraient aussi réussir à faire fusionner des particules en leur tapant dessus très fort avec des lasers. Et ils ont construit, on est en train de construire ce genre de choses, ça c'est en France, hein. C'est le CEA qui construit ça près de Bordeaux. On appelle ça le laser mégajoule. En gros, toutes les petites fenêtres que vous voyez là, il y a des gros 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 lasers qui vont rentrer dedans. Histoire de confiner, ils vont tous taper sur une toute petite bille d'hydrogène. Bref. Et ils devraient normalement permettre d'allumer la réaction nucléaire. Au départ, c'était fait pour les militaires, parce qu'ils voulaient étudier comment ça se passait dans les bombes H. Sans avoir à faire d'essais nucléaires, puisque maintenant c'est plutôt interdit. Voilà. Donc ils se disaient, bon, on va faire ça comme ça. Et puis avec de la simulation, ça ira. Je vous ai dit, on a plus confiance dans la simulation que dans les expériences. Donc ils disaient, un peu d'expérience et beaucoup de simulation, et c'est bon, nous on arrivera à savoir si nos bombes nucléaires, le jour où on voudra, elles marcheront. Et puis finalement, ils se sont aperçus que peut-être qu'ils pourraient aussi fabriquer de l'énergie, enfin, fabriquer, non, mais tirer de l'énergie, de l'hydrogène et de la fusion grâce à ça. Donc finalement, c'est peut-être pas ITER qui y arrivera le premier, mais peut-être plutôt ce genre de projet. On ne sait pas encore dire lequel va marcher le mieux. Mais en tout cas, d'un point de vue énergie pour l'humanité, c'est sans doute ça l'avenir, une de ces deux formes, et aussi une troisième machine d'un type complètement différent et qui pourrait éventuellement le faire. Ils ont atteint sur cette troisième machine, par erreur, plusieurs milliards de degrés, c'est-à-dire beaucoup plus qu'au cœur des étoiles. Par erreur, ils ne s'y attendaient pas. Donc, comme quoi, on continue malgré la big science à faire des découvertes par hasard. Ils n'avaient pas prévu que ça marcherait aussi bien. Alors, pour vous donner une idée aussi de au combien l'astrophysique a fait des progrès et pourquoi, c'est un petit peu hallucinant, juste, vous savez qu'on a envoyé Hubble dans l'espace. Parce que dans l'espace, il n'y a pas l'atmosphère, et que l'atmosphère, c'est ça qui rend les étoiles scintillantes. Donc ça perturbe l'observation. Donc c'est pour ça qu'on a envoyé un télescope dans l'espace, le télescope Hubble. Mais maintenant, il n'y a plus besoin. Pourquoi ? Parce qu'ils ont appris à déformer en temps réel et en direct les miroirs des télescopes avec des vérins. Il y a des centaines de vérins sous les miroirs pour les déformer en temps réel pour corriger les aberrations de l'atmosphère. Ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils créent une fausse étoile en envoyant un rayon laser dans l'atmosphère. Ça apparaît comme une étoile pour le télescope. Mais il y a des ordinateurs qui scrutent cette étoile et qui vont modifier le miroir en temps réel de manière à ce que, en gros, l'image de l'étoile reste la même. S'ils y arrivent, alors ils suppriment le scintillement des étoiles. C'est comme s'il n'y avait plus d'atmosphère pour le télescope. Et donc c'est ça ce qu'on appelle l'optique adaptative. Et ça a complètement révolutionné aussi, il n'y a pas très longtemps, la façon de baser les télescopes et donc notre connaissance de l'univers très lointain. Voilà, du coup on peut voir grand aussi. On se dit, tant qu'à faire, autant faire vraiment grand, quoi. Pour l'instant, les grands miroirs, ils font 8 mètres de diamètre, 8 mètres, 10 mètres. Et ils se sont dit, pourquoi pas en faire 42. Donc voilà, à peu près, donc l'image qu'ils publient sur leur site web, c'est l'ESA, l'Agence donc spatiale européenne. Je suis un peu trompé pour le paquet d'autres. Bref, voici l'arc de triomphe. Ça, c'est ce qu'on appelle le VLT. Le Very Large Telescope, le très grand télescope. Et ils ont des miroirs de 8 mètres de diamètre. C'est déjà pas mal, c'est parmi les plus grands du monde. Et bien maintenant, ils ont trouvé l'endroit, ce sera pas très loin du VLT. Ils vont construire le EELT, c'est-à-dire le Extremely Large Telescope, et européen, il y a un DE qui est pour européen. Donc ça, c'est juste pour dire qu'il fera 42 mètres de diamètre, c'est-à-dire qu'à peu près son miroir qu'on voit dépasser là, vous voyez un peu le miroir ? Il a à peu près la taille de l'arc de triomphe. Et il est actionné en temps réel par des vérins qui le modifient pour que l'image soit parfaite. Et pour finir, un truc auquel vous... Enfin, dans l'inconscient collectif, où à peu près tout le monde est persuadé que dans pas très longtemps, finalement, vous allez tous aller faire du tourisme en fusée dans l'espace, non ? Tous, peut-être pas, mais on parle de touristes spatiaux qui payent pour l'instant des millions de dollars, mais ça va devenir moins cher, tout ça. Moins cher, c'est pas sûr. Parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé autrement pour envoyer 12 tonnes dans l'espace que de faire des fusées de 800 tonnes. Et une fusée de 800 tonnes, ça ne coûtera jamais pas très cher. D'accord ? Ah, forcément. Donc, pour envoyer 1 kilo dans l'espace, c'est 23 000 dollars. À vous de calculer combien ça coûterait de vous envoyer faire du tourisme là-haut. Une façon de se mettre au régime aussi très notamment. Donc, pour l'instant, les touristes de l'espace, c'est des millionnaires et ça va le rester. Parce qu'en fait, c'est stupide d'envoyer une si grosse fusée pour juste 12 tonnes dans l'espace. C'est stupide, mais c'est pas facile de faire autrement, mais il y a un autre moyen. C'est ce qu'on appelle l'ascenseur spatial. Alors en fait, c'est une jolie image de la NASA. L'idée, c'est en gros d'accrocher un fil entre un truc qui serait en orbite géostationnaire, c'est-à-dire qu'il reste fixe au-dessus de la Terre, toujours au-dessus du même endroit de la Terre, et un fil entre la Terre et un truc en orbite géostationnaire. Alors, pendant très longtemps, c'était de la pure science-fiction. Parce que on avait calculé la résistance que ça devrait avoir. Et le résultat, c'était qu'il fallait que ce soit plus résistant que du diamant. Donc on ne pouvait pas faire un câble en acier plus résistant que du diamant. C'était pas possible. Un câble en acier, ça serait fait tirer en un moins de 2, et jamais ça aurait tenu. Et le truc, c'est qu'en fait... C'est là aussi que le tout petit rejoint le très grand. On a inventé ce qu'on appelle les nanotubes de carbone. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est des chimistes qui ont inventé ça. C'est tout petit, les nanotubes de carbone. Mais c'est plus résistant que le diamant quand on arrive à les assembler. Donc, les nanotubes de carbone, c'est des nanotechnologies. Mais ça permettrait théoriquement de fabriquer cet ascenseur spatial. Et ce jour-là, vous avez besoin de très peu d'énergie pour monter dans l'espace. Ce jour-là, le tourisme spatial, ça devient une réalité. Il faut savoir aussi que construire un tel ascenseur spatial, si toutes les technologies étaient au point, il y a déjà des articles qui sortent là-dessus, il y a des conférences de scientifiques qui se réunissent, etc. Il n'y a pas de gros obstacles majeurs à ce qu'on fasse ça. Sans doute dans les 20-30 ans qui viennent, s'il n'y a pas de problème, peut-être. Il faut juste qu'on apprenne à bien assembler les nanotubes de carbone de façon solide entre eux. Mais dans ce cas-là, ça coûterait finalement à fabriquer que 4 milliards de dollars, c'est-à-dire pas grand-chose en fait, par rapport à un programme spatial. Donc en fait, ce serait même pas cher. Pour le coup. Bon, 4 milliards, vu comme ça, mais c'est pas grand-chose en fait. Comparé à ce que coûte l'entretien de la navette spatiale, ça, c'est pas grand-chose. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on n'est pas encore au bout de nos surprises. Enfin, ouais, en tant que chercheur, je sais que je ne suis pas au bout de nos surprises. Et il faut s'attendre, paradoxalement, quand on fait de la recherche, à voir ses connaissances remises en cause tous les 10 ans. Au bas mot. Voilà, j'ai à peu près terminé. Maintenant, si vous avez des questions, c'est à vous.